Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir, du jour au lendemain, avec Jean-Luc Steinmetz, qui a établi la nouvelle édition des œuvres complètes de L'Autre et Amont dans la bibliothèque de la Pléiade. Le vif regret de ne pas probablement pouvoir vivre assez longtemps pour vous bien expliquer ce que je n'ai pas la prétention de comprendre moi-même. Vous avez une double casquette, Jean-Luc Steinmetz. Vous êtes à la fois universitaire et écrivain, et plus précisément, poète.
Oui, ça fait... Le point de départ, c'est sans doute la poésie, ce qui fait que même mon travail d'universitaire a été inspiré par cette expérience première, qui était d'abord de l'ordre de la sensation, de l'impression, et puis... qui s'est poursuivi à la rencontre d'autres textes et à la rencontre d'autres écrivains, parmi lesquels, précisément, très tôt, L'Autre et Amont.
Mais on peut dire Rimbaud aussi, parce que vous êtes l'auteur d'une biographie de Rimbaud, Arthur Rimbaud, Une question de présence, qui a été publiée en 1991, mais rééditée à plusieurs reprises, dont en avril dernier, chez
Talendier.
Oui. Voilà. Et alors, vous avez publié vous-même... pas mal de livres de poésie, depuis L'écho traversé chez Chambellan, c'était en 1968, ça ne rajeunit pas, jusqu'à Le jeu tigré des apparences, un livre publié l'an dernier au Castor Astral, avec un sous-titre qui peut éveiller la curiosité, poème et poésie, hein, poème au pluriel et poésie au pluriel.
Oui,
vous
c'est
faites
ça.
Donc la différence entre...
Oui, c'est une différence un peu ancienne, c'est-à-dire que... Ancienne, je veux dire que ça relève d'un ordre ancien, mais auquel je suis attaché, à savoir que les poèmes, c'est un travail sur une assez longue distance, alors que la poésie, pour moi, est brève. Donc, je me réfère à l'acception qu'avaient ces deux mots au XIXe siècle. Et j'aime bien être selon... écrire selon ces deux longueurs d'onde différentes.
Mmh. Et c'est l'enjeu, ça, du jeu tigré, des apparences.
Ah, c'est les apparences qui importent, bien sûr, avec la contradiction perpétuelle qui est entre les choses, et parfois l'accession à une phrase formulaire. C'est ça que, d'ailleurs, qui, ces derniers temps, me rapprocher de L'Autre Amont. Et c'est à ça que je tiens beaucoup chez lui. Ponge m'avait frappé pour ça et m'avait, quand nous avions eu des conversations, m'avait dirigé vers ça. C'est-à-dire qu'il pensait que la poésie devait quand même avoir trait à un aboutissement qui serait une espèce de maxime à l'usage des hommes. Mais évidemment pas une maxime de l'ordre de la banalité, mais quelque chose de conquis, une espèce de slogan pour vivre, pour parler banalement des choses. Donc la plupart de ces poèmes se dirigent vers quelque chose qui pourrait être une vérité de cet ordre, à condition que la vérité ne soit pas un truisme, bien sûr.
L'an dernier, Jean-Luc Stenmet, vous avez publié aussi un gros volume critique qui rassemble des études sur Rimbaud, bien sûr, mais aussi sur Nerval, sur Mallarmé, sur Baudelaire et sur l'autre Hermon. Et ce volume, vous l'avez intitulé « Reconnaissance ». Il est publié par Cécile Defou.
Oui, alors « reconnaissance » voulait dire, bien sûr, le mot avait une acception double, à savoir la reconnaissance d'un territoire qui est plus ou moins à découvrir, et puis la reconnaissance, la gratitude que je montrais vis-à-vis de ces cinq poètes qui, d'après moi, sont les plus importants encore. N'est-ce pas ? Donc, quand on dit le 19e siècle, selon Daudet, n'est-ce pas ? Mauvais 19e siècle, enfin, je ne trouve plus ou le pitoyable 19e siècle, je ne trouve plus la formule. Mais moi, je pense que nous sommes encore, nous devons beaucoup de choses à ces cinq hommes qui étaient bien dans ce 19e siècle et en même temps qui voyaient un certain catastrophisme arriver, enfin, et qu'on allait retrouver chez Nietzsche, etc. Ce sont vraiment des penseurs de notre temps, de notre 21e, justement.
Et parmi ces cinq, l'autre Hermon est un peu à part.
Il est à part, oui. Il est à part pour beaucoup de raisons. D'abord, cette chose extraordinaire qu'il n'a pas été édité de son vivant. Enfin, il n'est pas distribué. Le livre ne sort même pas de l'imprimerie où il a été imprimé, donc en Belgique. Et puis, ensuite, c'est évidemment la répercussion qu'ont ces volumes, les chants de Maldoror d'une part, et aussi les poésies de tout petit fascicule, 1 et 2, qui ne restent qu'à 5 exemplaires maintenant, qui ont une destinée évidemment imprévisible, mais peut-être pas pour Isidore Ducasse, parce que quand même, Ducasse avait une très grande conscience de ce qu'on pourrait appeler son génie, hein, de la force de ce qu'il découvrait. Et dans sa lettre à Victor Hugo, il avait dit qu'il s'adressait à Victor Hugo, qui est le tout, alors que lui n'était rien aujourd'hui, mais il voulait bien dire qu'il serait quelque part celui qui importerait. Et la fin du chant premier se termine, n'est-ce pas, s'achève sur cette phrase « La fin du 19e siècle verra son poète, sous-entendu, c'est moi, n'est-ce pas ?»
L'autre Hermon, vous le connaissez par cœur, Jean-Luc Stenmet.
Je crois que personne ne peut le connaître par cœur. Et j'ai autant de surprises à le lire et à le relire que tous ceux qui, ces derniers temps, ont acheté ce volume. Ouais. J'ai été frappé de voir que tous les critiques qui en parlaient à plus ou moins juste titre, du moins disaient qu'ils étaient étonnés, n'est-ce pas, de ne pas le connaître. La découverte semble être constante parce que les repères sont peut-être difficiles aussi. Plus difficiles que chez d'autres. Il faut dire que les chants de Maldoror sont écrits en prose et que le volume des poésies qui consiste en des maximes détournées suppose aussi que l'on connaisse les premières maximes de Pascal, de Vauvenargues, etc. Donc la lecture n'est pas très, très difficile, mais elle est piégée, n'est-ce pas ? Elle est toujours à double ou à triple fond.
Mais vous ne tombez dans aucun piège, puisque cette édition de la Pléiade n'est pas la première sur laquelle vous avez travaillé, puisqu'on vous doit aussi une édition de l'autre Hermon, livre de poche,
oui,
qui a été publié l'été dernier, si je ne me trompe pas.
Si, c'est plus ancien, mais c'est constamment réédité. Donc j'ai fait en livre de poche et en Garnier Flammarion. Et puis il se trouve que malgré tout, et malgré toutes les éditions qu'il y avait, le directeur de la Pléiade, Hugues Pradier, m'a demandé de faire cette édition qu'on peut imaginer définitive, mais on ne sait jamais si on ne va pas découvrir autre chose.
Définitive, hein? Pourtant, c'est pas la première. Alors, on peut penser qu'elle ne sera pas la dernière.
Oui. Enfin, vu la façon dont on a travaillé sur celle-ci, avec en plus l'addition des lectures de l'autre amont, on pense qu'elle... On peut imaginer qu'elle forme véritablement un événement dont toutes les autres éditions devront tenir compte. Cependant, il y avait déjà une édition chez José Corti qui avait eu l'idée très, très juste et très efficace de rassembler déjà un certain nombre de préfaces et d'articles concernant l'autre amont.
Mmh. Ben. Il y a une grande différence entre cette édition de la Pléiade qui sort maintenant et vos éditions antérieures en livre de poche ou en GF Flammarion.
Oui, parce qu'il faut dire que quand même il y a les cahiers L'autre amont qui ont beaucoup travaillé d'une façon un peu obscure, malheureusement pour eux. Mais évidemment, j'étais en rapport avec leurs travaux, parfois invité à leurs colloques. Et sur des points de détail, beaucoup d'éléments ont été éclairés. Or, on s'aperçoit avec Isidore Ducasse que le détail, parfois, mène à certains éléments essentiels. Donc, oui, je crois que ne serait-ce que dans le commentaire, il y a beaucoup de choses nouvelles par rapport aux deux éditions que j'ai pu faire dans le livre de poche. Et puis là, on me donnait plus détendu pour m'exprimer. La préface que j'ai faite était en rapport aussi avec certains de nos contemporains, comme Solers, comme Pliné, comme Aragon. Toute cette partie-là, à partir de 1967, est évidemment très importante, même si elle manifeste une espèce d'effondrement de la critique. C'est-à-dire que c'est très... Le structuralisme n'a pas fait de bien dans la lecture de l'autre âme.
Il ne faut pas oublier que vous-même, Jean-Luc Steinmetz, vous avez été l'un des membres du collectif TXT.
Oui.
Il en reste peut-être quelque chose.
Malheureusement pour TXT, et malgré mon amitié pour Christian Prigent, la voie que j'avais dessinée concernant de se servir de l'autre amont n'a pas été vraiment suivi. C'est la voie du carnavalesque qui est, ou d'un certain baroque. Mais je crois que notre deuxième numéro porté, parce que c'était mon vœu, cette publication permanente n'a pas de prix. Donc j'avais souhaité qu'on se référa à ce que met Isidore Ducasse dans les Poésies 2. Et puis, j'ai pas été tellement suivi de ce point de vue-là. Et il faut dire que ma poésie non plus, par la suite, n'a pas été dans ce sens, sauf peut-être dans le dernier recueil où l'importance du formulaire, de ce que je vous disais pour des maximes, des slogans pour notre temps, apparaît avec plus de force. Bon.
Soulignez vous-même dans votre préface à cette nouvelle édition des œuvres de L'autre amont dans la Pléiade, Jean-Luc Steinmetz, la première question à laquelle le lecteur est confronté avant même d'avoir ouvert le livre, c'est celle du nom, hein, parce qu'on s'y perd un peu entre le patronyme, le pseudonyme et
l'astéronyme. Oui, alors c'est une autre affaire que celle du jeu est un autre. D'ailleurs, Isidore Ducasse, ou plutôt L'autre amont, dit à un moment « Non, je ne suis pas un autre. Hein. » Mais voilà, il faut voir comment ces différentes publications ont été faites, à savoir un chant premier qui paraît en 1868, sans nom d'auteur, donc les trois étoiles de l'astéronyme. Et alors qu'il n'y a pas de nom d'auteur, il y a un nom propre à la fin qui apparaît dans plusieurs strophes, qui est le nom de Dazé. Donc on se demande s'il n'y a pas un rapport entre ce nom propre-là qui concerne un véritable aveu biographique et puis l'effacement du nom. Deuxième édition, c'est celle à laquelle on se réfère toujours, c'est l'édition complète des Chants de Maldoror en 1869, qui comporte 6 chants. Et là, il y a le pseudonyme de Comte de Lautréamont. Mais on n'est pas du tout sûr que Ducasse lui-même ait revendiqué ce pseudonyme. Simplement, ça paraît logique dans un premier temps. Alors, Soupeau, assez tard, a découvert, donc dans les années 25, par là, qu'il y avait un ouvrage d'Eugène Sue, qui était publié d'ailleurs par l'éditeur de Lautréamont, l'éditeur imprimeur surtout, qui s'appelait Lacroix. Donc un ouvrage d'Eugène Sue qui a pour titre « Lautréamont ». Alors évidemment, de là, on a vite déduit que sans doute, ce pseudonyme assez ronflant, « Comte de Lautréamont », comme il y avait « Vicomte de Chateaubriand » ou « Comte Alfred de Vigny » ou « Honoré de Balzac » ou « Gérard de Nerval », on a déduit que l'éditeur imprimeur aurait conseillé à Isidore Ducasse de prendre ce pseudonyme. Et puis, enfin, après l'échec, ou plutôt la non-sortie des Chants de Maldoror, Isidore Ducasse, puisque c'est son vrai patronyme, décide de publier deux petits fascicules, Poésie 1, Poésie 2, qu'il signe cette fois absolument de son nom, hein, qui est un nom originaire du sud-ouest de la France, son père s'étant exilé, enfin, ayant cherché à travailler comme beaucoup de gens dans cette région de la France et dans cette période, sous le régime de Napoléon III, donc, il a été à Montevideo. Voilà, enfin, le mystère des noms est là, mais il y a bien d'autres noms qui apparaissent dans les Chants de Maldoror, par exemple, et à commencer par Maldoror, qui est une extraordinaire invention onomastique de laquelle semble émaner déjà des quantités de possibilités, à commencer par le mal jusqu'à l'or, n'est-ce pas, et l'aurore.
Lautréamont, c'est un adolescent du Nouveau Monde.
Oui. C'est sûr qu'il a été marqué par cela, et moi je dirais même que chez lui, il y a un exotisme à considérer, à penser que c'est plutôt un exotisme absolu, n'est-ce pas ? Donc il est en dehors, il vient d'un en dehors, il est en dehors, et il est très certainement marqué par cela, d'une part par la vie qu'il a pu avoir là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans, donc il connaît les réalités uruguayennes, et d'autre part, il est environné par la langue espagnole. Alors, on a peut-être trop forcé les choses en disant que certaines fautes de français revenaient à son peu de connaissances, à une connaissance approximative du français. Mais enfin, quand on lit les Chants de Maldoror, on s'aperçoit justement que c'est la grande langue classique, très perturbée, qui est là, beaucoup plus que l'espagnol. Simplement, il y a quelques réalités qui apparaissent là, des réalités animales, des réalités de climat. Enfin, on sent qu'il a vécu cela, comme il a vécu la grande traversée de l'Atlantique, ce qui nous vaut très certainement des souvenirs qui ont alimenté la plus belle strophe, l'adresse au vieil océan.
Il s'est donné lui-même donc les moyens d'écrire ce qu'il a écrit, parce que par ailleurs, sa formation comme élève, comme étudiant, n'a pas laissé beaucoup de souvenirs.
Non, ça n'est pas un mauvais élève, puisqu'ils étaient assez peu nombreux au lycée de Pau et au lycée de Tarbes. Mais il y avait des gens beaucoup plus brillants que lui. Alors, il a eu quelques prix, quelques accessites, mais jamais des accessites de composition française ou de dissertation. Il a été formé par cette école extraordinaire, d'ailleurs, du Second Empire, extraordinaire pour l'écriture. C'est l'école qui a formé Baudelaire, c'est l'école qui a formé Rimbaud, c'est-à-dire que, évidemment, il y a une connaissance de la rhétorique, non pas tant de la littérature française, mais des auteurs anciens, et puis de quelques grands romantiques que lui-même a lus, Et il a une connaissance aussi des auteurs anglais, par exemple.
Vous dites que Ducasse lycéen avait déjà tout lu, même peut-être Baudelaire.
Ah, le problème de l'accession à Baudelaire est toujours difficile à déterminer à cette époque-là. Pour Rimbaud, on en est sûr. Mais autrement, pour Mallarmé, ce n'est pas si facile que ça à déterminer. Pour quelqu'un sur qui je travaille en ce moment, qui est Tristan Corbière, c'est très délicat à voir comment Baudelaire aurait pu parvenir là-bas. Et pour Lautréamont, je pense qu'il prend contact avec Baudelaire assez tard, n'est-ce pas? Et quand il est à Paris, ça m'étonnerait que dans le lycée de Pau ou dans le lycée de Tarbes, il ait pu prendre contact avec les Fleurs du Mal. En revanche, il a pu lire quelques poèmes de Baudelaire dans des revues dont on sait qu'il les lisait à la bibliothèque municipale. Ouais, par exemple, dans L'Artiste. Ouais,
ouais. Dans votre préface, vous dites quand même que le chant premier porte des traces très nettes de sa lecture.
Oui, 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 oui. Notamment le Vieil Océan, notamment la cruauté d'un personnage qui enfonce les griffes dans le cœur de l'autre, etc. Mais Baudelaire est très marqué aussi, par certains côtés, par un frénétisme de la littérature romantique. En tout cas, quand vous dites « il a tout lu », c'est un peu plus tard qu'il a tout lu. On ne peut pas avoir lu. Il a lu les grands classiques. Il est très formé par cela. Virgile, Homère, les tragiques grecs, et puis Chateaubriand, Hugo, etc. Mais à l'époque des poésies, c'est-à-dire en 1870, donc entre 1869 et 1870, alors là, c'est à peu près, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, de voir tout ce qu'il a assimilé, peut-être par des manuels, mais il est sûr que la deuxième partie de sa création dans Poésie 1 et Poésie 2 témoigne d'une connaissance presque universelle de la littérature. Mmh. De sorte que Poésie 1, c'est un véritable manuel de lecture, et ce que j'appelle un ars poetica, hein, qui projette tout un regard critique sur la littérature antérieure.
Donc la lecture est en grande partie le moteur de l'écriture.
Dans une certaine mesure, oui. C'est une écriture dont tout le monde a remarqué, sauf quand on l'a taxé de folie au début. Mais ensuite, on a remarqué l'extraordinaire vigilance, l'extraordinaire lucidité de cette écriture. C'est des mots qui reviennent dans le magnifique article de Maurice Blanchot, notamment, dont toute la critique ultérieure et à laquelle toute la critique est redevable. N'est-ce pas?
Pourquoi écrit-il? Il veut être édité?
Ah ça, pourquoi écrit-on? C'est une question, évidemment, où l'identité est bien présente. Je crois qu'il veut mener un grand combat, pour reprendre un terme de Michaud, n'est-ce pas? Alors, un grand combat contre la morale, contre certaines figures qu'impose la vie, contre le Père, contre Dieu, qui est un Dieu mauvais d'ailleurs, ce n'est pas le Dieu de la Bible, qui reconnaît que son peuple a la nuque rebelle, mais c'est plutôt un Dieu gnostique, et puis contre certaines formes de littérature aussi. C'est-à-dire, il y a une espèce de contre-littérature qui se manifeste là, au fur et à mesure des chants, car lorsqu'on lit les chants, on s'aperçoit qu'ils se détruisent peu à peu, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'autocritique, ou la critique, ou le discours critique, l'emporte sur le discours de fiction. L'un des éléments les plus étonnants, d'ailleurs, qui a beaucoup inspiré le nouveau roman, et notamment Robbe-Grillet, et qui passe par Lautréamont, c'est de voir que il y a l'aspect narratif, n'est-ce pas, auquel on se laisse prendre, et puis cet aspect narratif est de plus en plus supervisé par une parole critique, ce qui a évidemment beaucoup touché les auteurs du XXe siècle, et même aujourd'hui ceux du XXIe, avec tous les dangers, bien entendu, que cela comporte, c'est-à-dire l'étouffement de la fiction au profit d'une supervision, au profit d'une poétique. Le poétique recouvre de plus en plus la poésie.
Comment vous les lisez, vous, les chants, Jean-Luc Stedmetz? Vous prenez le livre à sa première page et vous le refermez à la dernière.
J'aime lire des strophes au hasard et voir ce qui se dit là. Et puis j'ai comme beaucoup de lecteurs, comme Gide par exemple, quoique pour d'autres raisons sans doute, et j'ai un grand plaisir à lire dans le sixième chant le petit roman où il change de régime et où il raconte une histoire évidemment invraisemblable, mais parfaitement écrite et d'un symbolisme qui donne lieu à des quantités d'interprétations et même de rêveries. Puisqu'il s'agit d'abord d'une drague homosexuelle, mais en même temps il s'agit de régler son compte avec Dieu, et que le tout se développe sur une grande capitale, une des plus grandes à cette époque-là, qui est Paris. Donc je trouve beaucoup d'éléments là qui assouvissent mon plaisir de lecteur. Bon.
Alors Ducasse veut être édité, voilà ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui.
Il y parvient, mais dès qu'elle est imprimée, l'œuvre est invalidée.
Voilà. Donc je pense que c'est arrivé à quelques écrivains, mais pas de cette dimension. En tout cas, lui a pu échapper, n'est-ce pas, à cette invalidation, enfin à cette difficulté, mais en vertu de l'histoire littéraire, de ce qui s'est passé par la suite. En effet, son éditeur imprimeur, Lacroix, qui est celui qui avait imprimé et qui avait édité Les Misérables, donc un grand éditeur, eh bien, hésite à sortir le livre, à distribuer le livre. Donc le livre va rester chez l'imprimeur.
Parce que pour lui, c'est de la dynamite.
Je ne sais pas s'il avait cette intelligence. En tout cas, la censure était vigilante à l'époque où il y avait... on était passé par les fleurs du mal, n'est-ce pas, et où Madame Bovary avait failli être condamnée aussi. Il avait des problèmes, le même éditeur avait des problèmes avec Zola. Et puis peut-être qu'il avait accueilli ce manuscrit sans bien voir ce qu'il contenait, n'est-ce pas. Alors, c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Ça m'amuse beaucoup de voir dans les Inrocuptibles ou dans Télérama qu'on le recommande pour les cadeaux de Noël, n'est-ce pas. Ce qui est une louable intention, mais évidemment, c'est de la dynamite ou un poison.
Mais le fait même d'être dans la Pléiade lui enlève peut-être sa force subversive, non ?
Sade sur papier Bible, oui, c'est quelque chose comme ça.
Je dirais qu'il y a déjà le Marquis de Sade. Enfin...
Oui, c'est ça. Oui, mais ça va peut-être plus loin que le Marquis de Sade, parce que le problème moral, n'est-ce pas, est immédiatement transgressé, alors que chez Sade, il y a des longues digressions sur la question. Or, nous voyons, par exemple, dans un chant, dans une strophe, mal d'aurore faire éventrer une jeune fille, éventrant une jeune fille, l'éviscérant, et puis demandant à son chien aussi de commettre un acte de bestialisation. Là. Et combien de fois ce genre de choses arrive ? C'est-à-dire que...
Pas très convenable.
C'est-à-dire que c'est un livre de réflexion sur la littérature, où la rhétorique est très forte, mais c'est en même temps un livre où une extraordinaire libido est en travail, s'exprime. C'est ça qui entraîne le lecteur aussi, d'ailleurs. On se dit, à quand la prochaine scène scandaleuse ? Une dominante, cependant, c'est l'homosexualité. C'est donc celui à qui il semble s'adresser, celui pour qui il y a amour et en même temps violence, agression, c'est toujours un jeune homme entre 16 et 17 ans. Et il semblerait bien que le modèle ait été avoué tout de suite dans le chant premier, lors de la première publication de ce chant, sous l'anonymat. Mais le nom de Dazé renvoie à l'un des fils de son correspondant en ville. Voilà. Bon. Enfin, c'est pas ça qui fait le génie particulier du texte. Mais il faut en tenir compte.
Ducasse veut être lu. Il est prêt à forcer toutes les portes. S'il le faut, il est sûr de son génie.
Oui. Alors, en vertu de quoi ? Je crois que l'assurance de sa phrase même, la justesse des mots, prouve chez lui une intelligence extrême, tout à fait particulière, tout à fait singulière. Le terme de génie, n'est-ce pas, évidemment, vient à l'esprit, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faut, celui de tempérament, pas davantage, mais la preuve est donnée tout de suite, ce qui frappe beaucoup d'ailleurs, dès la première strophe, n'est-ce pas, il y a une autorité incroyable de l'écriture. Or, chacun de nous savons quand nous lisons des manuscrits, quand on nous confie des manuscrits, que les premières phrases ne trompent pas. Alors, en vertu de quoi? C'est en vertu d'un équilibre, d'une justesse et d'une façon de considérer l'univers relativement cohérente, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça relève d'une philosophie, ce serait beaucoup dire que ça relève d'une sagesse, mais en tout cas, il y a un rapport à l'autre et à l'ensemble de la création et qui est très clair chez lui et qui explique que chaque phrase porte, n'est-ce pas ? Chaque phrase a un dynamisme, une vertu de flèche.
Et un désir d'expérimenter toutes les formes possible, tous les genres, on dira.
Et c'est ça. Alors, ça aussi, c'est une chose sur laquelle qui a beaucoup étonné les gens. Les surréalistes, par exemple, l'ont mis du côté du roman noir. Moi, je ne crois pas, n'est-ce pas ? Je crois qu'il commence avec ce vieux genre de l'épopée, n'est-ce pas ? Qui facilite d'ailleurs ce grand combat entre un homme ou un surhomme, Maldoror, et puis Dieu, et qui provoque aussi toutes les multiples métamorphoses auxquels nous assistons. Mais au fur et à mesure, cette espèce de force critique va défaire l'épopée, ça va le mener vers une forme un peu plus burlesque, et puis, au sixième chant, il dit, voilà, avec une certaine autorité, n'est-ce pas, maintenant, je sais, le petit genre, le genre qui convient, c'est le roman. Et il va faire ce roman autour de Mervyn, divisé d'ailleurs en 8 chapitres. Ce qui ne l'empêche pas ensuite de passer aux poésies, curieusement appelées poésies d'ailleurs. Mmh. Alors, poésie 1, qui d'après moi sont un art poétique, et poésie 2, qui consiste dans des maximes détournées, hein, repensant en quelque sorte ce que les plus grands moralistes avait pensé jusqu'à maintenant. Alors, ce qui témoigne d'une singulière intelligence chez un jeune homme de 23 ans.
Et une impertinence, parce que comment peut-on se permettre d'appeler poésie ce qui n'est que pensée et maxime ?
Oui, alors là, je n'ai pas vraiment de réponse, n'est-ce pas ?
C'est une provocation ?
C'est sûrement... Sûrement, il a le sens du scandale. Mais alors, malheureusement pour lui... Sens du scandale pour exister d'ailleurs, pour être, hein, pour se donner une identité. Malheureusement pour lui, et c'est très... Ça aussi, ça peut surprendre, c'est qu'il ne connaît que des littérateurs de troisième ordre. Il ne va pas du tout... Et alors, il est publié chez un grand éditeur, mais autrement, il n'a pas de rapport avec le Parnasse contemporain, hein, qui est l'école montante à cette époque-là. Il aurait pu fréquenter... Le comte de Lille, il aurait pu fréquenter Hugo à son retour. Il aurait pu fréquenter Verlaine, etc. Mais c'est vrai qu'on est dans une période extrêmement troublée aussi. Donc lui, il écrit de 68 à 70. Hein. Et 70, l'affaire est faite. Il meurt en novembre, dans un moment où la ville est assiégée, catastrophique. Donc le moment où il sort... La deuxième conception de son écriture, que sont les poésies 1 et poésie 2, la réception de ces deux petits fascicules est très compromise, puisque c'est la guerre franco-prussienne. Nous sommes entre juin et septembre, le désastre de Sedan.
N'empêche qu'avec ses poésies, il a bien mouillé sa chemise en plongeant au cœur même du langage.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il nous force à nous interroger sur la contradiction, sur la négativité. Et ces éléments-là, ce type de réflexion va se développer très vite après, n'est-ce pas, par des gens qui l'ont peu connu, mais on est frappé quand on lit « Mon cœur mis à nu » ou « Les fusées de Baudelaire », des rapports qu'il y a avec l'impertinence, c'est le même genre d'impertinence que celle de l'autre amont, et on retrouve ça chez Nietzsche aussi, dans sa généalogie de la morale, etc.
Vous proposez également, Jean-Luc Steinmetz, aux lecteurs, un choix des lectures qui ont été faites de l'autre amont. Un étonnant cortège, dites-vous.
Oui, un étonnant cortège où il y a les individus révérencieux, ceux qui ont peu compris, ceux qui comprennent de travers, et puis des personnes qui... des écrivains, enfin, tous sont des écrivains, d'ailleurs. On me l'a suffisamment reproché, à moi qui, d'une part, suis universitaire. Tous sont des écrivains, et c'est ça qui fait sans doute que ils écrivent quelque chose de plus intéressant que les universitaires. C'est-à-dire que tous se mettent à l'épreuve, plus ou moins consciemment, de ce l'autre amont. Ils se mettent à l'épreuve de ce texte qui interroge la lecture, l'écriture et leur propre style. Mmh. Alors ils y tiennent, ils tiennent plus ou moins le coup, si on peut dire. Hein. L'un de ceux qui se met le plus à l'épreuve et qui s'en sort le mieux, parce qu'il voit vraiment de quoi il s'agit, c'est évidemment Aragon, qui s'en sert très souvent d'ailleurs dans ses premiers textes, le libertinage, le traité du style, etc.
Puis il y a eu des numéros de revue, le Disque Vert, voilà. Les Cahiers du Sud.
Voilà, alors il y a deux grands numéros de revue qu'on avait peu à notre disposition. Celui du Disque Vert, où on n'est pas peu étonné de voir les réponses d'ailleurs assez évasives de Valéry ou de Maeterlinck, et même celle de Michaud qui semble se dérober, n'est-ce pas ? Les surréalistes eux-mêmes ne voulant pas trop participer à ce numéro d'hommage des Disques Verts. Et puis plus tard, il y aura, après-guerre, le numéro des Cahiers du Sud, qui lui est remarquable. D'une part parce que les surréalistes ne sont pas là, mais c'est vrai que beaucoup n'étaient pas encore rentrés, ou à peine. Et puis que le groupe avait été défait pendant la guerre, n'est-ce pas ? Éluard, Aragon, Char, il n'était pas question à ce moment-là qu'il parle d'Isidore. Et donc nous voyons dans ce numéro magnifique texte de Ponge adapté à vos bibliothèques le dispositif Mal d'horreur poésie, donc il voit bien la contradiction, et le texte d'Artaud qui est toujours du point de vue d'Artaud, c'est-à-dire Artaud montrant qu'Isidore Ducasse a été dévoré par le comte de l'autre amont, ce qui est pas mal vu si on se souvient de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce comte de l'autre amont a peut-être été imposé, n'est-ce pas ? Ce nom a peut-être été imposé à Isidore Ducasse par Lacroix. Mmh. Et puis il y a André Masson aussi qu'on voit là. Et le texte de Bachelard. Hein.
Donc c'est pas mal.
C'est pas mal, oui.
Ensuite
oui.
Est venu le temps des longues préfaces, celles de Roger Caillois, de Julien Gracq, de Maurice Blanchot,
oui.
Que vous citiez tout à l'heure.
C'est ça.
Puis les lectures des situationnistes, bien sûr. Et de tel quel, vous parliez de Solers, mais il y a également Marcelin Plenet,
voilà.
Dans la collection Écrivain de toujours, au
oui.
Seuil.
Oui, oui. Alors le livre de Plenet a été très quelque chose, un moment important, parce que c'est vrai qu'après l'importance que les surréalistes lui avaient donnée, on avait l'impression que l'autre amont était en quelque sorte un auteur réservé aux surréalistes. Alors, dans le mouvement de tel quel, qui s'opposait plus ou moins aux surréalistes, il était fatal, il était nécessaire que quelqu'un mette l'accent sur cette redécouverte. Hein. Mmh. Mais enfin, en même temps, l'autre amont et Mallarmé étaient redécouverts. Également par Julia Kristeva, d'ailleurs.
Mmh. Bon. Vous voyez, Ducasse n'a jamais cessé de surprendre ses lecteurs. Jean-Luc Steinmetz a établi la nouvelle édition des œuvres complètes de l'autre amont dans la Pléiade. Du jour au lendemain, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.